Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure. Nous allons parler maintenant de ce qui s'est passé avec le nouvel accord de libre-échange là, qui devrait être bientôt entériné. Finalement, le Canada semble s'être entendu, a cédé devant la pression de Donald Trump. Ce ne sera plus donc l'ALENA, mais bien l'AEUMC. Le C, vous remarquerez, pour Canada, qui est en queue d'acronyme. Ça veut peut-être dire que ça explique beaucoup de choses. En tous les cas, pour les producteurs de lait québécois, malheureusement, qui ont l'impression aujourd'hui d'avoir été un peu donnés comme monnaie d'échange pour qu'il y ait finalement une signature. Vous savez que le lait au Québec, on s'en rend peut-être pas assez compte, là. On en boit, on en mange dans nos fromages, on mange du yogourt. C'est une grosse business. On parle de 12 000 propriétaires de fermes laitières. Plus de 3 milliards de litres de lait produits chez nous. C'est une industrie de plus de 2 milliards de dollars. Et effectivement, là, il semble que le lait américain va faire de plus en plus son chemin chez nous. Et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que peut-être que nous, comme consommateurs, c'est le temps de demander certaines choses. Par exemple, vous savez, sur l'étiquetage. L'étiquetage, on le réclame, un meilleur étiquetage. Aussi, une traçabilité. C'est-à-dire, c'est quoi la traçabilité? C'est de dire d'où vient tel produit que j'achète. Votre lait, là. Et puis c'est ça la question que je vous pose pour la prochaine demi-heure. On va en discuter avec des invités que je vais vous présenter tout de suite. Votre lait, voulez-vous savoir s'il est américain ou québécois? Aimeriez-vous que ça soit marqué sur la pinte de lait? Lait du Québec. Lait venant d'une vache d'un éleveur québécois. Voulez-vous ça? Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup ça. Parce que du lait américain, ça me tente pas d'en boire, puis ça me tente pas qu'il y en ait dans mon fromage. Alors, est-ce que c'est possible? Ça, c'est notre vœu de consommateur. Je pense que vous, je vais demander l'opinion des auditeurs parce que je veux savoir si vous êtes comme moi là-dessus. En attendant, Sylvain Charlebois est avec nous. Il est professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax. Bonjour, Sylvain.
Bonjour Isabelle.
Vous allez sortir d'ailleurs un texte que j'ai devant moi qui va être publié dans les médias demain où vous parlez carrément d'un cul-de-sac laitier où vous dites effectivement là, si l'entente avec les États-Unis et le Mexique se ratifie, c'est notre système de gestion de l'eau qui va se retrouver en mode de survie et nos agriculteurs vont vivre le pire des cauchemars et ils ne le méritaient pas.
Oui, effectivement. En fait, je suis connu pour avoir critiqué le système pendant, en fait, 20 ans. Là. Je critique le système encore. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il fallait prévoir à l'avance, qu'éventuellement, il va y avoir des pays qui vont nous pointer du doigt et on va devoir changer le système. Mais depuis 20 ans, on fait rien. Malheureusement, on a fait des petits changements, pas très grand. Et puis là, aujourd'hui, on a le président Trump qui nous rappelle que notre système est désuet. Et puis là, aujourd'hui, les producteurs agricoles sont pris à laisser beaucoup de produits provenant de l'extérieur intégrer le marché canadien. Et le système de la gestion de l'offre, c'est de produire ce qu'on a de besoin. Alors, dès qu'on laisse les produits d'ailleurs pénétrer le marché canadien, ça crée un déséquilibre total.
Êtes-vous en train de dire que notre laxisme nous amène là où on se trouve aujourd'hui, puis que dans le fond, du point de vue de Donald Trump, il n'y a pas tout à fait tort, finalement, d'avoir demandé ce qu'il a demandé, c'est-à-dire d'avoir mis de la pression sur ce système de gestion de l'offre?
Bien, j'étais en Australie la semaine passée, puis eux ont un système très ouvert. Il y avait un système de gestion de l'offre en Australie. Ils ont mis fin à leur système en 2000, et aujourd'hui, j'ai parlé à plusieurs producteurs laitiers. Quand j'étais là-bas, j'ai parlé à des distributeurs aussi. Et évidemment, c'est pas du tout la même mentalité. L'Australie pense à l'avenir, développe de nouveaux marchés, transige avec 92 différents pays dans le monde. On est extrêmement stratégique, tandis qu'au Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on gère l'offre sans nécessairement penser à ce que le consommateur veut, le consommateur canadien et le consommateur ailleurs aussi.
Oui, justement, on a un producteur laitier du Québec avec nous. Yvan Bastien est président des producteurs de lait de l'Outaouais-Laurentide. Il a une ferme laitière à Sainte-Anne-des-Plaines. Bonjour, M. Bastien.
Bonjour, Mme Maréchal.
Bon, on a entendu votre président, Bruno Le Tendre, dire que ça n'avait juste pas de bon sens puis que vous vous sentiez tous trahis. Là, vous entendez Sylvain Charlebois qui dit qu'effectivement, bon, ben, c'est peut-être parce qu'on a pendant 20 ans rien fait puis qu'à un moment donné, ben, c'est ça qui arrive, ça nous pendait au nez. Comment vous vous sentez aujourd'hui là, par rapport à tout ce qui s'est dit au cours des derniers jours? Puis là, vous devez faire face à une situation qui va peut-être être pénible là, si je me fie à Sylvain, là.
partout. Oui, ben c'est certain qu'on vit une grande incertitude, là. Déjà qu'on n'a pas complètement réussi à comprendre tous les tenants et aboutissants de l'entente. Mais de céder des parts de marché, c'est les producteurs de lait canadiens sont prêts à produire du lait de qualité pour les consommateurs canadiens. Là. Mmh. On a toujours voulu au maximum là, produire. On s'est adapté. Des adaptations, il y en a eu beaucoup. Je fais juste penser, par exemple, à une époque où est-ce qu'il y avait des kits à pizza qui rentraient des États-Unis avec du fromage américain.
Ouais.
Bien, on s'est adapté. On a créé des classes spéciales pour être concurrentiel, puis pour donner le choix à ceux qui s'approvisionnaient de choisir les produits américains ou les produits canadiens à même prix. Donc, puis dans toute l'histoire, par exemple, dans toute l'histoire du lait diafiltré, là, c'est...
Oui, bien, j'allais y venir parce que les gens ne savent pas ce que... C'est quoi du lait diafiltré?
En fait, c'est du lait dont on concentre la protéine. Et puis, on va seulement garder les protéines qu'on a besoin pour faire le fromage pour avoir des rendements beaucoup plus grands. Donc, ce que les transformateurs faisaient, qu'il y avait des usines de l'autre côté, c'est qu'ils concentraient du lait de l'autre côté, donc ils concentraient la caséine, puis ils transportaient ça à travers les lignes. Puis, ils amenaient ça pour fabriquer les fromages puis les yogourts canadiens avec des produits laitiers américains, avec un concentré de protéines. Nous, notre prétention, c'était que ce produit-là était un produit laitier. Mais on a travaillé pendant 4 ans à faire des représentations pour expliquer ça au gouvernement, pour dire c'est un produit laitier, ça vient en concurrence avec notre lait, donc ça devrait être taxé. Ou si c'est pas taxé, ben dites pas que c'est normal de mettre ça dans des produits laitiers et de prétendre que c'est du lait. Mm-hmm. Mais le gouvernement fédéral a choisi de ne pas s'impliquer dans ce dossier-là. Donc, encore une fois, les producteurs laitiers canadiens, on s'est adapté.
Non, mais là, vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'on avait déjà pas mal de lait américain dans nos fromages, nos yogourts, puis...
Exactement. Effectivement, il en est entré, le lait diafiltré, là, jusqu'à temps que l'entente de la classe 7 soit signée, le lait diafiltré rentrait des États-Unis. Puis il était dans nos produits laitiers tant que ce soit écrit sur la liste d'ingrédients, c'était simplement écrit « substance laitière ».
Ouais. Mais Sylvain
Charlebois là-dessus, ouais.
Il faut mentionner qu'Agropur, qui est une coopérative, en fait, qui est une propriété des producteurs de lait.
Ouais.
En fait, importait du lait diafiltré des États-Unis pendant un certain moment.
Pourquoi? C'était-tu moins cher?
C'était moins cher.
Ouais.
Ben oui.
Jusqu'à
temps. Il y avait un paradoxe total. C'est là qu'on voit que le système de gestion de l'offre a jamais vraiment bien fonctionné depuis 20 ans et à chaque fois qu'il y avait un petit problème, on mettait un diachelon sur le petit problème et il y avait un autre problème qui arrivait. On tentait simplement de rendre un système désuet plus pertinent, mais évidemment, on arrive à la fin, là. Il faut passer à autre chose.
Si on le résumait, là, Sylvain, là, pour les gens qui ont, les gens comprennent pas c'est quoi la gestion de l'offre. Mettons qu'on le résume, on essaie d'expliquer ça.
Les gens s'en foutent un peu, dans le fond. Ce qu'ils veulent, c'est des produits de bonne qualité.
Oui, puis ils veulent savoir d'où il vient, par exemple, le lait. Ça, c'est bien important, là.
Absolument. Puis pendant plusieurs années, il y avait des protéines laitières qui venaient des États-Unis, puis ils ne savaient pas. Puis, à mon avis, les consommateurs canadiens devraient le savoir.
Ben oui. Et ça, parce que c'est un peu la question que je pose aux auditeurs ce matin, puis peut-être que je rêve, puis que je suis naïve, parce que ça, tu sais, on aimerait, ça fait, je pense qu'on n'a même pas encore. On a-tu un étiquetage obligatoire des OGM au Canada?
Non.
Imagine, je suis en train de demander ce matin qu'on mette une étiquette pour dire lait québécois. Alors, peut-être que je rêve, mais est-ce que ça serait faisable? Ce qu'on comprend, c'est que c'est marqué lait québécois, mais c'est peut-être pas du lait québécois complètement.
Non, en fait, il y a un logo qui existe. Les producteurs laitiers du Canada ont un logo qui existe et les transformateurs peuvent l'utiliser pour identifier leurs produits.
Mm-hmm.
Donc, si on revient par exemple au cas du lait diafiltré, quand ça venait des États-Unis, les 3 grands transformateurs ne voulaient pas mettre le logo sur leurs produits pour garder la confusion.
Mm-hmm.
Quand on a signé l'accord de façon privée avec nos transformateurs, les Agropur ont choisi, eux, de prendre uniquement du lait canadien et d'apposer le logo, donc lait canadien de qualité dessus. Donc, depuis ce temps-là, si vous regardez les produits Agropur, tous les produits d'Agropur qui viennent du Canada, parce qu'ils importent aussi certains produits là, dans le cadre de l'entente européenne, mais tous les produits Agropur faits au Canada portent le logo. Puis beaucoup de transformateurs aussi de plus petite taille utilisent ce logo-là. Il reste encore les 2 autres grands transformateurs qui, eux, ne veulent pas l'utiliser pour continuer à garder la confusion. Parce qu'ils peuvent, dans certains cas, importer certains concentrés protéiques. On sait que certains grands transformateurs continuent à le faire, donc ne veulent pas utiliser le logo pour continuer à garder la confusion dans ce cas-là.
C'est qui, les deux autres, vous dites? Il y a Agropub, c'est les deux autres, c'est qui?
C'est Parmalat et Saputo.
Saputo, okay. Ouais.
Donc, ces deux-là, ils ne veulent pas qu'on sache d'où vient le lait qu'on boit ou qu'on mange.
Ben moi, c'est exactement. Ce que j'argumente.
Ouais,
c'est
Sylvain
si
Charlebois là-dessus. Ouais.
Si le lait canadien est si bon, pourquoi qu'on protège notre marché? Donnons le choix aux consommateurs. On devrait, en fait, on voit déjà des produits de l'Europe qui arrivent au Canada actuellement depuis un an. Ça va être la même chose avec les Américains. Donnons le choix aux consommateurs. Ça va être aux consommateurs de choisir quel est le meilleur produit pour il ou elle.
Exactement. Puis c'est pour ça que je dis, mettez une étiquette claire, mais il faut que l'étiquette soit claire, tu comprends? Il ne faut pas que ça soit du lait diafiltré américain puis qu'on mette parce qu'il aurait été transformé ici.
Non, le logo lait canadien de qualité, c'est garanti que c'est 100 % de produits laitiers.
La vache est au Québec, c'est ça?
La vache est au Canada. En fait, c'est canadien plus canadien, qu'on est intégré.
Ouais. OK, on est intégré. On peut pas savoir si. Moi, je suis un petit peu. Je suis comme Donald Trump. Moi, je suis assez protectionniste, finalement, dans mon approche. Moi, je voudrais une vache québécoise. Hein?
Oui, mais c'est parce que la différence entre M. Trump et nous, c'est que M. Trump représente 300 millions de consommateurs. Ah, ouais. La plus grande économie du monde.
C'est ça.
Quand on va aux États-Unis, c'est là qu'on se rend compte que le Canada ne vaut absolument rien. Ah. On n'est vraiment rien pour eux. Et tout ce qui compte, c'est l'Amérique. Alors, il faut quand même comprendre que on a beaucoup à offrir au monde. On a de très bonnes ressources. On a du très bon lait. On a de très bons produits laitiers. On innove beaucoup, mais pour nous-mêmes. On fait rien avec la propriété intellectuelle qui est générée par la filière laitière. Et j'ai toujours préconisé qu'on devrait offrir au reste du monde nos bons produits et non pas garder nos bons produits à nous-mêmes.
Oui, là-dessus, Yvan, oui.
Il y a actuellement un surplus de produits laitiers à l'échelle mondiale. Là. Ce qui fait en sorte que, par exemple, aux États-Unis, on sait qu'actuellement, là, ils se jettent du lait tous les jours là, aux États-Unis puisque ça ne répond pas à la demande. Mais bon, pour continuer à recevoir des subventions, on continue à produire le lait, mais au bout du compte, on finit par le jeter. Nouvelle-Zélande produit beaucoup. Depuis qu'il n'y a plus de quotas en Europe aussi, ils ont augmenté beaucoup leur production.
Ouais.
Donc, il y a des pays comme la France là, que les producteurs sont en grande difficulté financière actuellement. Eux, c'en est un exemple là, que la France a décidé de s'ouvrir, donc de décider d'exporter leurs produits, des produits de qualité, mais au bout du compte, évidemment, les producteurs agricoles, c'est pas eux qui en profitent parce que là, à partir de ce moment-là, on est sur un marché mondial qui est toujours au moins cher là, au niveau mondial.
C'est les transformateurs puis les distributeurs qui ramassent l'essentiel de ouais.
Mais c'est pour ça que la version de l'offre a été mise sur place, c'est pour protéger les producteurs laitiers.
Ouais. Est-ce qu'ils s'en jettent encore du lait, Yvan Bastien? Parce qu'il y a des années, là, je parle, il y a 20 ans, on parlait de ça, là, à cause des quotas, il y a des producteurs qui étaient obligés de jeter leur lait au Québec.
Non, en fait, les producteurs qui sont en production actuellement, il peut avoir une exception de temps en temps, mais notre niveau de gestion est assez élevé qu'on est capable de bien prévoir notre production, puis on a des marges de manœuvre suffisantes.
Puis notre lait, est-tu vraiment meilleur? Sylvain avait un bon commentaire. S'il est si meilleur que ça, effectivement, il faut que tout le monde le sache, mais est-ce que c'est vrai que le lait québécois ou canadien est meilleur que le lait américain?
Ben, il répond, notre lait, ben oui, parce que nos critères sont plus sévères. Parce
et moins
que
grand.
Nos consommateurs sont plus sévères.
Oui. Donc, quelles sont les particularités du lait?
On pourrait avoir un débat là-dessus. Là.
Ouais, ouais.
Mais quand même, relativiser les choses.
Là. Ayons un débat là-dessus. Je veux savoir, moi, y es-tu meilleur?
les pratiques vétérinaires.
Oui, Sylvain, puis Yvan après. Sylvain Charlebois.
Ben, en fait, c'est que, bon, il y a certaines pratiques qui sont différentes, ça c'est clair, mais moi, je suis pas mal certain que la plupart de vos auditeurs ont déjà été aux États-Unis. Puis ceux qui ont déjà goûté au lait américain ont peut-être pas vu grande différence entre le lait américain et le lait canadien. Là.
Non, peut-être.
Fait, on parle beaucoup d'hormones de croissance ces temps-ci. Là.
Oui.
Je peux vous dire que, bon, on a fait les tests et la science nous démontre qu'il y a peu de risques à la santé humaine de boire du lait d'une vache qui a été dont on lui a administré des hormones de croissance. Il y a à peine 15% des fermes laitières aux États-Unis qui utilisent des hormones de croissance, ce qui est interdit au Canada.
Oui, c'est ça. Mais tu vois, là-dessus, là, aujourd'hui, on dit, il n'y a pas d'études, puis dans 20 ans, ils vont en sortir une. T'sais? Fait qu'on ne sait jamais.
Mais au-delà de ça,
oui, Yvan Bastien, allez-y.
Les études qu'il y a eu, par exemple, pour la BST, on interdit la BST de l'utiliser au Canada.
C'est quoi la BST?
C'est la somatotropine recombinante, donc c'est une hormone de croissance qui est utilisée pour faire produire plus de lait aux vaches.
Oui.
Au Canada, ça a été interdit parce que on était inquiet sur la santé des animaux.
Mm.
Mais aux États-Unis, eux l'utilisent. Mais maintenant, aux États-Unis, vous pouvez acheter du lait qui est étiqueté sans BST. Les gens sont prêts à payer plus cher du lait sans BST.
Clairement.
Comme nous, on a choisi au Canada de produire uniquement du lait sans BST.
Ouais.
Après ça, on peut regarder aussi côté éthique. T'sais, on change les endroits où est-ce qu'on fabrique nos vêtements parce qu'on veut pas encourager là, de la main-d'œuvre illégale ou des enfants qui travaillent. Mais aux États-Unis, 80% du lait aux États-Unis est produit à partir de travailleurs illégaux.
80%? Ah,
oui. Oui, la plupart des fermes américaines là, de certaines dimensions, c'est des travailleurs illégaux, des travailleurs sud-américains qui sont sur les fermes pour travailler. Là.
L'avantage de la gestion de l'offre, c'est qu'on standardise tout. Hein. Tout le monde suit les mêmes cahiers de charges avec beaucoup de rigueur. Alors, les consommateurs ont droit à un lait de qualité à tous les jours, à peu près au même prix. Ça, c'est l'avantage de la gestion de l'offre. Le désavantage, c'est qu'on offre toujours la même chose. Aux États-Unis, on reconnaît que le consommateur recherche des choses différentes du lait, comme par exemple sans BST, du blé bio, des choses comme ça. Et au Canada, on voit qu'on a beaucoup de difficultés à s'adapter parce qu'il y a de plus en plus de gens, des immigrants qui arrivent au Canada sans nécessairement prioriser la consommation de lait dans leur diète. Et on s'adapte évidemment en réduisant la production, etc. Puis on a du mal à stimuler la demande d'une façon ou d'une autre.
Oui. Vous n'êtes pas d'accord, Yvan Bastien, vous dites?
Non, en fait, on s'adapte et on est capable d'innover. Par exemple, si on prend les fromages fins qui sont produits au Québec, c'est vraiment impressionnant. La mise en marché collective qu'on a au Québec pour le lait permet à des petits producteurs d'avoir sa propre fromagerie puis de mettre en marché ces fromages-là. Puis ça, on soutient ces producteurs-là qui le font. Là. Il y a un système qui fait que pour ce producteur-là, les risques sont limités parce qu'il est à l'intérieur d'un système de mise en marché collectif. On est content quand ça se fait. Par exemple, les différents laits, aux États-Unis, oui, il y a du lait bio. Bien, ici aussi, il y a du lait bio puis qui est de la même façon, qui est supporté collectivement. Les producteurs de lait du Québec, l'Organisation des producteurs de lait du Québec organise du transport pour aller chercher le lait bio dans les fermes pour les amener aux usines. Puis on encourage les producteurs à transférer sur le lait bio. On regroupe les producteurs dans une région, on transporte leur lait et on l'amène à l'usine. Donc, c'est un système qui permet ça. Du lait sans lactose, on vient d'en sortir. Avec surprotéiné, on vient d'en sortir. Pourquoi? Parce que les gens demandent du lait sans lactose.
Clairement. Merci, je vous remercie. Mais je regarde, Sylvain, Yvan, je regarde, j'ai sorti le rapport annuel des producteurs de lait du Québec et ça dit que les ventes au détail de produits laitiers ont continué de croître au Canada en 2017 avec une augmentation de 5,4% pour le beurre, 3,4% pour le fromage, 4,3% pour la crème et 1% pour les yogourts. Alors, c'est une industrie qui est toujours en croissance. Je veux dire, la publicité boisant en deux, c'est mieux. Ça marche.
Le lait liquide est en baisse par capita. En fait, la consommation de lait liquide est en baisse depuis fort longtemps. Mais pour ce qui est des produits transformés, c'est une autre histoire. Le beurre, le yogourt. D'ailleurs, c'est la nouvelle entente là avec les Américains. En fait, met en jeu ce qui se passe avec ces produits-là. J'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus de produits américains au Canada qui vont être moins chers.
Mais ça, c'est intéressant tout ça. On va poursuivre, bien sûr, après. Yvan Bastien, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Yvan Bastien est président des producteurs de lait de l'Outaouais des Laurentides. Il est également producteur laitier à Sainte-Anne-des-Plaines. On aura un autre producteur après la pause. Et puis, bien sûr, Sylvain Charlebois reste avec nous. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Je vous pose la question. Est-ce que vous craignez d'acheter du lait américain sans le savoir? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une étiquette qui le dise clairement? Lait canadien, on nous a dit qu'il y avait déjà là, une étiquette là, qu'on pouvait... Faut la regarder, là, faut la chercher. Moi, s'il y en a une, il faudrait qu'elle soit plus grosse. Mais moi, là, plus grosse, là, faut pas que je mette mes lunettes quand je magasine, là, que je fais l'épicerie, j'ai bien ça. Fait que mettez-la grosse, qu'on le sache si c'est du lait vraiment qui part d'une vache canadienne. On veut le savoir. En tout cas, moi, dites-moi vous, 514-790-9850. Ça en ferait 1-866-790-9850. Est-ce que vous craignez d'acheter du lait américain sans le savoir? Jean-Guy me dit qu'effectivement, les gens s'en foutent pas de la gestion de l'œuf et de la provenance des produits qu'ils achètent. Lui est un de ceux qui s'en préoccupe. Et il dit, moi, je veux vraiment qu'on me l'inscrive beaucoup plus, de façon plus évidente. On a Louis avec nous. Bonjour, Louis.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, c'est sûr qu'il faudrait que ça soit clairement indiqué que c'est du lait canadien. C'est très important aussi de l'encourager comme citoyen canadien. Il faudrait vraiment encourager les produits canadiens.
Êtes-vous prêt à payer un peu plus cher? Vous allez me dire, on le fait déjà. Il y a des gens qui me rappellent que quand ils vont aux États-Unis, ne serait-ce qu'au Vermont, l'autre bord des lignes, le litre de lait est quasiment deux fois moins cher, des fois même encore... C'est plus que deux fois moins cher par rapport au prix du litre de lait ici au Québec, au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ben là, tu sais, à un moment donné, je veux bien payer un peu plus, mais pas deux fois le prix, là. Vous êtes où?
Exactement. Je paierai pas deux fois le prix pour du lait, bien sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, dans un supermarché, si les deux sont l'un à côté de l'autre, et puis, j'aimerais vraiment ça que ça soit clairement indiqué lequel c'est le Canadien, ouais, qu'on puisse encourager plus facilement. Et puis, une autre chose que je voulais aussi mentionner, tandis qu'on est un petit peu dans ce sujet-là, dans le supermarché en général, je vois de plus en plus d'ordinateurs qui prennent la place des caissières. Moi, je trouve qu'on devrait arrêter d'encourager ce style-là. Je sais que c'est pas peut-être le sujet d'aujourd'hui.
Ouais, mais ça, c'est un bon sujet. On y reviendra, par exemple, une caissière ou une machine. Qu'est-ce que vous préférez? Merci beaucoup, Louis. Patrick Laize est producteur laitier à La Veltrie. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
On voulait vous entendre là-dessus. Vous m'avez écrit pour me dire, moi, je connais bien le sujet, je le vis. Quand vous avez vu cette nouvelle entente AEUMC, comment vous réagissez par rapport à ça? Vous, de quelle façon ça va vous toucher comme producteur de lait?
Ben, c'est parce que ça vient s'ajouter à toutes les autres ententes qui ont été négociées depuis une dizaine d'années.
Ouais.
Fait que lorsque l'entente sera complètement appliquée, on parle d'environ 6 ans, ça va être environ 20% du lait canadien qui va être produit à l'extérieur. Comme producteur laitier, le principal reproche souvent qu'on fait à la gestion de l'offre, c'est nos coûts de production qui sont élevés. Mais si chacune de nos entreprises pouvait produire ce 20% supplémentaire-là, ouais, le prix moyen diminuerait. Fait qu'on se tire dans le pied à chaque fois qu'on fait une entente comme ça en augmentant notre problème. L'autre chose aussi, Isabelle, si tu permets.
Allez, oui, allez-y.
Il y a beaucoup de consommateurs qui disent qu'ils veulent acheter canadien, puis je le vois là, dans ma famille, dans mes amis. Là, tout le monde dit qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour aider. Ce qui est plate là-dedans, c'est que les produits qui vont rentrer, ils ne seront pas visibles. Mmh. Ça va être souvent des produits, mettons, qui vont être utilisés dans la surtransformation. Mmh. Par exemple, l'importation de beurre va aller servir, mettons, pour les boulangeries ou les fabrications de pâtes, ces choses-là. Fait que ça me surprendrait beaucoup que vous puissiez voir sur la tablette du marché un lait canadien à côté d'un lait américain, un livre de beurre canadien à côté d'une livre de beurre américaine. Ça se produira probablement pas. Mmh. Fait que malgré toute l'aide que nos consommateurs veulent nous donner, puis tout le support qu'on a, puis c'est bien le fun comme producteur d'avoir ça, ce support-là, malheureusement, le consommateur, on dit souvent qu'il a le dernier mot, mais dans ce cas-là, il l'aura pas parce qu'il pourra pas faire la différence entre les produits qui vont être importés et les produits qu'on produit ici.
Vous allez perdre de l'argent, Patrick?
Ben c'est clair. Je veux dire, demain matin, là, avec ces ententes-là, le 20%, ici, on a des quotas à acheter. Fait qu'il faut que, si je veux pas perdre le 20%, il faut que je le rachète. Fait que c'est comme si j'avais pris 20% de ma production, que je l'avais jeté, c'est quoi de le dire, dans le dallo, si vous me permettez l'expression des tables, puis il va falloir que je rachète ce quota-là pour pouvoir le produire. Ensuite, on en parle un peu moins parce que c'est complexe un peu, mais la classe 7 que le Canada a décidé de laisser aller avec les négociations, ça va faire en sorte que je vais être payé un peu moins sur chaque litre de lait que je vais vendre. Fait que non seulement je perds des parts de marché, je vais perdre un peu de revenus. Fait que multiplier ça par les 5000 fermes qu'il y a au Québec, on est tous un peu perdants, autant en quantité de vente qu'en prix du lait. Ça nous fait mal des deux côtés. Puis c'est la troisième fois là, dans 10 ans là, qu'on se fait sacrifier pour des négociations commerciales.
Ça vous tente-tu de fermer l'étable des fois?
Ben sérieusement, là, je suis quand même encore dans la fleur de l'âge, là, puis on vient d'investir énormément sur la ferme. Non, je suis pas à l'étape de lâcher, mais je regarde les producteurs autour de moi qui lâchent, là, puis je les comprends en tabarouette. Parce que c'est... On offre... Vous le savez, on fait beaucoup de publicité, les fromages du Québec, tout ça. On investit beaucoup, on fait des bons produits, puis à chaque fois qu'il y a une négociation, le marché qu'on développe, on le laisse aller aux étrangers. C'est choquant en tabarouette, là.
Vous avez évalué combien ça allait vous coûter cette année?
Ben, on prend, mettons, une ferme de 50 vaches laitières là, qui perd son 20% de quota. Cela représente 10 kilos de quota. Pour racheter ces 10 kilos-là, cette ferme-là, ça y coûte 240 000.
240 000?
Oui. Ouais. Avec si on cumule le traité de l'Europe, si on accumule le traité du Transpacifique, si on accumule ce qu'on avait déjà donné lors des négociations à l'OMC, 20% de notre quota pour une ferme moyenne au Québec, c'est 240 000 $ de quota qu'il faut que tu achètes en espérant que ton voisin vende.
Merci.
Que c'est du quota qui reste à l'intérieur.
Merci beaucoup, Patrick. Bonne chance, merci. Bon courage. Je demandais à Sylvain Charlebois là-dessus. Sylvain, justement, le gouvernement canadien, par la voix de Justin Trudeau, disait, bon, on va les compenser, on va regarder ça, on va s'asseoir. Apparemment, d'ailleurs, qu'en ce moment même, là, les présidents des producteurs de lait du Québec, à qui on devait parler, d'ailleurs, Bruno Le Tendre, est en rencontre apparemment avec Justin Trudeau. Donc, est-ce qu'ils vont se faire rassurer, les producteurs de lait du Québec? Peuvent-ils compter sur une aide? Ce 240 000, écoute, un quart de million de dollars. Là.
Ouais.
Est-ce que vous y crois, toi, Sylvain, là, que l'aide fédérale vienne?
Il faut quand même rappeler que le revenu familial moyen chez les fermes laitières là, au Canada, c'est près de 150 000 $. Là. C'est au-dessus de la moyenne canadienne. Là. Mais ce qui arrive avec les fermes laitières, c'est qu'on a vu des gens comme Patrick réinvestir, devenir plus efficaces, mais ces gens-là sont pas récompensés par le système actuel parce qu'on nivelle par la moyenne.
Ouais.
C'est ça qui est le problème avec la gestion de l'offre.
Ouais.
C'est que on sacrifie des parts de marché. Il avait tout à fait raison en ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. On sacrifie des parts de marché en maintenant le système en place. Ça peut plus fonctionner en laissant 20% du marché à d'autres pays.
Donc, on aurait dû laisser aller la gestion de l'offre, c'est ça que tu dis?
Ben, ou au moins penser à une réforme sévère du système. Par exemple, au lieu de niveler par la moyenne, récompensons des fermes performantes comme celle à Patrick, par exemple.
Ouais.
Parce qu'on réinvestit, on innove. Il y a beaucoup de fermes laitières qui vraiment laissent les choses aller, puis tout le monde paye pour ça actuellement. Il y a l'autre aspect de l'exportation. Pourquoi pas développer un système de quotas pour l'exportation, pour laisser les entrepreneurs, des gens qui veulent justement développer des marchés internationaux, vendre des produits canadiens ailleurs. On le fait pas actuellement.
Mais tu dis, il faut en moyenne 500 000 par année de revenus, ouais. C'est ça, la ferme de revenus, pas net.
De revenus familial moyenne, ouais. 150 000 par année.
150 000, oui.
Ils ont des actifs qui dépassent les millions de dollars.
Oui, c'est sûr.
Il faut bien comprendre que les systèmes de quotas leur permettent d'avoir accès à une richesse inouïe. Là,
ouais. Mais tu sais, il y a aussi des horaires épouvantables pour... moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, il y a longtemps, lointain, dans le port, c'est un peu le même principe du quota, puis sincèrement, je veux dire, c'est des heures, c'est quasiment 24 heures. Tu fais le train, là, tu sais, c'est quelque chose, là, puis t'es endetté, là. Puis après ça, t'as des enfants, puis tes enfants, ils veulent pas prendre la suite parce que c'est bien trop de travail. J'ai Yves qui m'écrit, il dit, j'ai dans ma famille des producteurs laitiers, ils se lèvent à 4 heures du matin, ils se couchent à 10 heures tous les jours, 7 jours semaine. Cet été, ils ont pris pour la première fois en 4 ans, 3 jours de vacances. Il dit, le lait du Québec est de très bonne qualité et les gens qui nous le fournissent travaillent démesurément fort. Du lait américain, non merci. Encourageons nos producteurs, s'il vous plaît. Là, on entend bien le cri du cœur. Je pense que ça faudrait qu'il y ait cette prise de conscience-là, Sylvain Charlebois. Ouais.
Avec la nouvelle signature de cette semaine, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de producteurs laitiers qui vont pouvoir prendre des vacances.
Ouais.
Parce que, écoutez, c'est 2000 fermes laitières là, qu'on sacrifie avec l'entente. 2000 au Canada. C'est pas rien, là. Donc, c'est 2000 fermes. En raison de la gestion de l'offre, la façon qu'on fonctionne ici au Canada, on vient signer l'arrêt de mort pour 2000 fermes laitières au Canada. Puis, on n'a aucune stratégie. On n'a aucun programme pour eux. On pense pas à l'avenir, on pense pas à la relève, on pense pas à la valeur des quotas, on pense pas à l'exportation, on pense à rien. On pense juste à compenser les producteurs, peu importe ce que ça veut dire, envoyer un chèque, je sais pas, ça va régler les choses.
Donc, les États-Unis nous auront mis KO.
Ah, écoutez, Donald Trump, là, qu'on l'aime ou qu'on l'haïsse, là, avec l'ALENA, c'est un génie. Il a pu signer une entente avec le Mexique, et a forcé le Canada à sacrifier la filière laitière canadienne.
Alors,
il a carrément fait ça.
Ouais, exactement. On va remercier Justin Trudeau d'avoir permis la réélection de Donald Trump.
Oui, c'est ça.
Seigneur. Merci, ouais. Sylvain Charlebois. C'est toujours vraiment passionnant de t'entendre. Sylvain Charlebois est prof en distribution et politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie à Halifax. On reviendra là-dessus, c'est sûr. C'est un gros dossier. Tout de suite après la pause, je reçois Safia Nolin.